Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loise au micro pour parler aujourd'hui du théâtre au XVIIIe siècle. Une émission que vous retrouvez comme tous les épisodes précédents sur le site Parole d'Histoire, sur YouTube, Spotify, iTunes, partout où on écoute des podcasts. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire toujours apprécié. Vous avez aussi la boutique en ligne du podcast pour permettre de le soutenir. Je vous rappelle également que vous pouvez nous retrouver dans le podcast Le fil de l'épée sur l'histoire de la guerre, animé tous les 15 jours avec Alexandre Jublin. On parle ce vendredi du film injustement critiqué d'Oliver Stone sur Alexandre le Grand. Tout de suite, les métiers du théâtre au XVIIIe siècle à Paris. Merci et très bonne écoute. Pour parler aujourd'hui du théâtre, des acteurs et des actrices au XVIIIe siècle, j'ai le plaisir d'être avec Suzanne Rochefort. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ATER à l'Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous avez fait une thèse en histoire moderne qui vient d'être publiée sous forme de livre aux éditions Champvallon dans la très belle collection Époque. Vie théâtrale, le métier de comédien à Paris entre lumière et révolution. C'est un livre qui est une vraie belle thèse. Le volume fait quelque chose comme 530 pages. Hein. C'est un livre très consistant. C'est le fruit d'un gros travail. Et un gros travail qui interroge la condition d'acteurs, d'actrices au XVIIIe. Du coup, ma première question est vraiment très basique. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au théâtre du XVIIIe? Est-ce que c'est, vous avez vous-même fait ou vous êtes intéressé au théâtre? Comment c'est devenu un objet d'étude?
Alors en fait, je n'ai moi-même jamais fait de théâtre, mais en revanche, je viens d'une famille de comédiens. Donc c'est à la base un lien familial qui m'a amené à m'intéresser à cet objet. À la base, c'était pas censé être un objet d'étude historique ou un objet de thèse, mais c'était plutôt par curiosité personnelle que j'ai commencé à lire des choses en histoire du théâtre. Et puis c'est vrai que assez vite, j'avais envie de lire un livre plutôt sur l'histoire vraiment du travail et du métier, mais je trouvais pas forcément ce livre-là, en tout cas pour la France. Et donc c'est ce qui m'a amené à me dire peut-être que je pourrais en faire un objet d'étude historique. Et c'est là que tout a commencé, en fait, par ce biais.
Alors, il faut dire sans doute que le théâtre est un objet qui a été déjà très interrogé pour l'époque moderne. Il y a beaucoup de travaux sur le public du théâtre, sur la politisation théâtrale, sur l'espace public et la façon dont ça joue en France, en province, en Europe. Donc là, effectivement, l'angle du métier est différent, mais c'est une historiographie qui est déjà très dense. Autrement dit, vous avez dialogué avec toute une série de travaux importants que vous citez beaucoup, notamment beaucoup de travaux anglophones qui ont déjà contribué à défricher cet univers.
Oui, effectivement, un des défis de ma thèse, comme beaucoup de thèses, mais c'était vraiment de se placer à la croisée de plusieurs champs historiographiques. D'un point de vue d'une histoire plus littéraire, il y avait eu effectivement énormément de travaux qui avaient montré aussi, d'un point de vue esthétique, tout ce qui est autonomisation de l'art de l'acteur au XVIIIe siècle, par exemple. Et puis, comme vous l'avez rappelé, en histoire, beaucoup de travaux sur les salles de spectacle, sur le répertoire, la politisation des publics. Donc moi, l'idée, c'était de croiser tout cela en apportant ma propre eau au moulin, en apportant encore d'autres historiographies, finalement, c'est-à-dire en m'inspirant aussi à la fois d'une histoire sociale, du travail concernant d'autres métiers, et également d'apporter des choses du point de vue de l'histoire culturelle de l'information, par exemple. C'est finalement en croisant encore d'autres historiographies que ça m'a permis de me positionner face à ce champ déjà très travaillé, c'est vrai.
Voilà, alors c'est vrai que c'est intéressant aussi de regarder un livre comme ça qui paraît aujourd'hui en 2024 pour voir qu'est-ce que c'est que la cumulativité du savoir en histoire et en même temps qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours des questions à poser et quel espace on trouve. Alors une des manières dont vous renouvelez les questions, c'est aussi un choix assez original, même s'il y a pas mal de gens qui commencent à le faire, qui est d'enjamber la coupure révolutionnaire, en tout cas de ne pas vous arrêter en 1789 et de traiter ensemble deuxième moitié du 18e et séquence révolutionnaire. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir de faire ça?
Alors, c'était vraiment d'abord mon entrée première, c'était de faire une histoire du métier par ses acteurs et ses actrices, et donc suivre un certain nombre de trajectoires qui s'incarnaient dans des lieux de spectacle parisiens, et c'est lié en fait vraiment à la configuration théâtrale parisienne, parce qu'en fait ma thèse, elle épouse ce long 18e siècle où il y a en fait un moment de libéralisation des spectacles qui ne commence pas en 1791, mais qui commence finalement dès la fin des années 1750. Et donc, du coup, ça permettait d'enjamber cette césure-là et puis peut-être, du coup, de contribuer aussi à l'historiographie du point de vue, par exemple, de la question dont on reparlera peut-être de l'acquisition de la citoyenneté des acteurs et des actrices, de la pensée sur le temps long, enfin, sur le temps de plusieurs années auparavant. Et donc, du coup, je pense que ça permettait de repenser aussi certaines questions.
Et alors c'est intéressant aussi parce que vous le montrez, on viendra sur certains aspects précis, mais d'une certaine manière, on pourrait dire que la monarchie absolue et les révolutionnaires, dans les deux cas, prennent le théâtre au sérieux, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que c'est un enjeu, mais un enjeu qui n'est pas de même nature, mais un enjeu quand même important pour le pouvoir.
Oui, oui, tout à fait. Effectivement, hein, dès la fin du XVIIe siècle, plusieurs travaux qui se sont intéressés à l'État et à la cour ont bien montré que les spectacles étaient intégrés dans une pensée de service public, hein, finalement, à offrir aux Parisiens un art de qualité, avec un enjeu qui était aussi diplomatique, d'exporter aussi ce théâtre français hors des frontières. Donc ça existe effectivement bien avant la Révolution française. Et puis ensuite, en Révolution, vient cette idée vraiment accrue d'une vocation pédagogique des spectacles pour aussi véhiculer des idées patriotiques. Et donc, il y a plusieurs éléments qui se mêlent, effectivement, mais la question étatique est en tout cas toujours présente, un petit peu aussi comme un fil rouge.
Alors, on va commencer à poser un petit peu le décor de ce dont vous parlez. Il y a plusieurs théâtres, on va revenir sur cette dualité théâtrale, mais le principal reste la Comédie française à la fin de l'Ancien Régime. À quoi ressemble une soirée à la Comédie française si on est, je sais pas, en mars 1784, il y a 240 ans, à quoi ça ressemblerait d'aller assister à une représentation théâtrale ?
Eh bien déjà, on arrive relativement tôt, puisque les représentations commencent vers 17h. Et donc, il y a souvent une grande affluence aux portes des salles. Alors si on était en mars 84, ça serait juste un mois avant la première du mariage de Figaro. Donc là, où il y a vraiment une affluence énorme. Mais là, donc voilà, on arrive vers 17h et il y a très souvent deux pièces qui s'enchaînent dans la même soirée. Et les acteurs et les actrices peuvent être amenés à jouer effectivement dans les deux pièces de suite. Et ensuite, on se rend selon le prix qu'on a payé, soit au parterre, donc c'est-à-dire qu'on est d'abord debout jusqu'aux années 1780, puis assis après, soit dans les loges si on a payé plus cher. Donc une expérience différenciée quand même selon le prix qu'on paye.
Avec, on peut l'imaginer, dans le théâtre ou autour du théâtre, de quoi se restaurer, avec un à côté de la pure représentation artistique.
Complètement. Il y a des cafés qui sont associés à chaque spectacle, qui sont soit dans le foyer, soit juste à côté. Et dans mon travail, j'ai pu croiser, que ce soit dans les archives de police, dans les archives de la Comédie française, effectivement, un lien avec ces cafés, soit des conflits qui s'y déclenchent, ou même professionnellement. Hein, une des actrices de la Comédie française qui débute assez tard dans le siècle était en fait la fille de la tenancière du café de la Comédie française. Et donc là, voilà, un lien, une sorte de traversée professionnelle assez originale, mais qui en dit beaucoup aussi.
Alors la Comédie française, c'est le principal théâtre, c'est pas le seul. Et vous montrez, il y a vraiment, c'est le cœur du livre, hein, de montrer qu'il y a deux modèles de théâtre, qui sont aussi deux statuts pour les comédiens. C'est un paysage, en plus, qui change très vite, qui est en train de se transformer, de se renouveler dans la deuxième moitié du XVIIIe. Il y a d'un côté des comédiens, on pourrait dire officiels, qui ont un statut, et puis d'autres pour lesquels c'est un statut qui est en train de s'élaborer, mais qui est beaucoup plus disparate. Alors est-ce que vous pouvez nous brosser un peu un tableau de ces deux univers du théâtre parisien ?
Oui, complètement. Alors effectivement, en fait, le paysage des spectacles parisiens, il se structure à partir de la fin du XVIIe siècle, quand Louis XIV, effectivement, fonde la Comédie française en 1680 et lui donne un monopole, donc un droit exclusif, c'est le terme qui est employé, pour représenter des tragédies et des pièces en cinq actes. Et donc, la Comédie italienne suivra vers les années 1720 et il y a également l'Académie royale de musique qui existe également. Donc normalement, ces trois spectacles sont censés se partager les droits pour faire des spectacles. Mais en pratique, finalement, dès le début du XVIIIe siècle, ces privilèges sont sans cesse empiétés dans les jeux forains. Et puis, surtout, le phénomène sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est à partir du milieu du XVIIIe siècle, quand des spectacles permanents s'installent sur une nouvelle artère de loisirs, qui est le boulevard du Temple, hein, donc au nord-est de Paris, et sur lesquels s'installent des spectacles, cette fois permanents, qui sont uniquement tolérés sur autorisation de la lieutenance générale de police, donc c'est un petit peu flou, et ils ne sont pas censés, par exemple, jouer des pièces en cinq actes, leurs répertoires sont extrêmement surveillés, mais voilà, ils existent quand même. Et effectivement, alors il n'y a pas de statut officiel, en fait c'est une pratique par contrat, c'est-à-dire qu'ils sont généralement engagés dans le spectacle pour un an, renouvelable, hein, on peut être dans ces spectacles pendant 10 ou 20 ans, mais voilà, on a quand même cette précarité qui fait penser en tout cas à une forme plutôt salariale. On pourra en rediscuter, mais effectivement, du coup, il y a vraiment un modèle un petit peu bipartite hein, qui existe en fait dès le milieu du XVIIIe siècle.
Ça veut donc dire que cette société de l'époque moderne est une société qui est à la fois une société d'ordre et de privilèges structurée par les droits conférés par les autorités à tel ou tel groupe, mais en même temps, ce modèle social hyper normé, il fonctionne jamais complètement dans une société qui déborde un peu ses droits et c'est-à-dire qu'il y a des privilèges théoriques pour uniquement certains acteurs, mais en fait il y a plein de gens aussi qui jouent la comédie sous d'autres formes parce que la prétention en quelque sorte de la société d'ordre à tout régenter, à tout normer se heurte au réel qui est beaucoup plus foisonnant avec une demande de spectacle plus grande et du coup ça fait émerger des formes nouvelles.
Oui, c'est exactement ça et le phénomène vraiment extrêmement puissant c'est la commercialisation des loisirs, également cette demande publique pour les spectacles, qui fait effectivement que ces monopoles sont contournés. Mais ce qui est très intéressant, c'est que justement, cette société même de privilèges fait advenir cette commercialisation, puisque c'est l'Opéra, Académie royale de musique, qui vend à ces petits spectacles de boulevard le droit de faire des représentations en musique. Et donc, l'Opéra lui-même se nourrit de cette première commercialisation. Et ensuite, quand ces spectacles se déplacent du boulevard du Temple au Palais Royal, c'est sur une initiative aussi du duc d'Orléans. Donc, il y a toujours aussi cette imbrication entre la monarchie, la commercialisation et pas de dualité simple en fait.
Vous vous intéressez au métier de comédien, d'acteur, d'actrice. Les métiers sous l'Ancien Régime, ça renvoie souvent, et c'est une grande question historiographique, ça renvoie souvent à la notion de corporation, c'est-à-dire de métiers jurés, organisés, avec des règlements qui statuent sur l'embauche, les salaires, les carrières, la façon de fonctionner. Or, les acteurs, c'est pas une corporation, il y a des privilèges, mais c'est des privilèges sans corporation. Donc qu'est-ce que ça dit du travail urbain, du fait qu'il y a des métiers urbains qui fonctionnent pas sur ce modèle, alors que, je sais pas, pour les cordonniers par exemple, voilà, il y a je sais pas si c'est le cas pour les cordonniers, mais sans doute sous l'Ancien Régime. Oui. Voilà. Il y a des corporations qui administrent certains métiers, c'est pas le cas pour les acteurs.
Alors là, je ferai le lien avec ce qu'on vient de dire justement sur l'État et son rapport ambivalent aussi aux comédiens. Parce qu'il y a effectivement un droit exclusif qui est octroyé à la comédie française, par exemple, dans les années 1680. Mais une des raisons pour lesquelles ils ne gagnent pas les procès qu'ils entament contre les petits acteurs forains, c'est parce qu'en fait, on leur rétorque que ce n'est pas un vrai statut octroyé par lettre patente. Ça va être le cas à partir des années 1760, mais souvent c'est quelque chose qu'on leur renvoie, le fait qu'ils ne soient pas structurés en corporation ou pas structurés non plus en académie, ce qui est le cas beaucoup dans d'autres mondes artistiques, et donc ça leur provoque aussi un déficit de légitimité. Donc en fait, on a un État qui a envie effectivement de contrôler l'art dramatique et d'avoir des représentations de qualité, mais sans avoir non plus une proximité trop forte avec ce métier de comédien. Donc on est un peu dans un rapport de proximité qui n'est pas du tout simple et qui est extrêmement ambivalent. Et donc tout ça, effectivement, c'est en ça que mon ouvrage, effectivement, il alimente aussi cette question de la variété des mondes du travail, de la pluralité de l'organisation des travailleurs dans Paris à ce moment-là.
Donc c'est... Et du coup, on comprend aussi pourquoi c'est intéressant de relativiser en partie la coupure révolutionnaire, c'est qu'il y a toute une série de métiers pour lesquels il n'a pas fallu attendre 1791, la loi Le Chapelier, l'abolition des corporations, parce qu'en fait, ça ne recouvrait pas la totalité du monde du travail.
Complètement, puisque si on revient au spectacle qui naissent sur le boulevard du Temple, on a une dynamique complexe de contractualisation des relations de travail qui commence même dès le début du XVIIIe siècle autour des foires et puis ensuite il y a des véritables contrats écrits qui existent et qui formalisent un certain nombre de clauses sur la durée du travail, la rémunération, sur les droits en cas de cessation du contrat, etc., etc. Donc en fait, tout ça, effectivement, ça n'attend pas l'illibéralisation de 91, même si, bien sûr, ça se complexifiera après, mais ça préexistait. Donc c'est cette continuité aussi que j'ai voulu interroger.
Alors toujours pour complexifier ce paysage théâtral, ces comédiens de la Comédie française et de la Comédie italienne, ils opèrent donc avec un privilège royal. Ils sont sous une administration royale qui sont les menus plaisirs du roi. Sauf qu'en fait, on se rend compte en vous lisant qu'il y a beaucoup de décisions qui ne se prennent pas à Versailles, que les embauches, par exemple, c'est pas spécialement depuis Versailles qu'on dit un tel va jouer, etc. Et qu'au fond, c'est une tutelle qui n'est pas une tutelle absolue. Pour reprendre voilà le vocabulaire de la monarchie absolue, c'est une tutelle qui est loin d'être absolue et une tutelle plutôt distante.
Oui, effectivement. Et alors là, ça introduit encore une complexité, mais en fait, la Comédie française et la Comédie italienne, ce sont des sociétés, donc des compagnies d'associés, comme n'importe quelle autre association commerciale. Et donc certes, elles ont la tutelle des menus plaisirs du roi, puisqu'elles ont obtenu un droit exclusif sur des représentations, mais en même temps, il y a une vraie autonomie au quotidien. Et il n'y a pas seulement une pratique de cette autonomie, il y a une revendication de cette autonomie à s'auto-organiser, à se réguler, à s'appuyer sur les statuts de la société. Et ce sont les comédiens et les comédiennes eux-mêmes hein, qui, souvent, rappellent à l'ordre les menus plaisirs sur des règlements ou des règles qui ne seraient pas respectées. Donc c'est une manière aussi de conserver cette autonomie-là.
Alors une autonomie avec malgré tout des limites dans la mesure où vous le montrez aussi, il arrive régulièrement qu'il y a des comédiens qui soient embastillés, qui soient arrêtés, lorsqu'ils sont en retard ou absents sans raison parce que ça vient perturber toute l'économie des spectacles qui doit être en bon ordre malgré tout pour qu'une capitale royale fonctionne bien. Donc c'est pas de tout repos non plus d'être comédien sous l'Ancien Régime.
Oui, effectivement. Alors en fait, il y a deux raisons à ces sanctions qui mènent à la prison. Pour les comédiens français, donc de la Comédie française et les comédiens italiens, finalement, souvent, quand ils sont embastillés, c'est parce qu'ils ont manqué à des représentations à la cour, parce qu'ils sont effectivement obligés de faire un certain nombre de représentations à la cour par an, mais pas pour ce qui est du service de Paris. En revanche, pour les comédiens de boulevard, effectivement, on a une régulation qui s'opère en fait par la police de Paris. Et effectivement, si un comédien est absent ou en retard, eh ben son directeur va s'adresser au commissaire de police parce que en fait, il a troublé l'ordre public en provoquant le retard d'un spectacle, le mécontentement du public et donc un désordre. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une imbrication entre les relations de travail qui se passent en coulisses et qui concerne toujours aussi l'espace public. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup intéressée.
Alors peut-être qu'on peut dire un mot, même si ce n'est pas le cœur du livre, du fait que la Révolution n'est pas une période de tout repos non plus pour les comédiens, en particulier la Comédie française. Il y a beaucoup de problèmes politiques. Qu'est-ce qui se passe en 1793 et voilà, quels sont les enjeux à ce moment-là?
Oui, alors en fait, dès 1789 et même avant, la Comédie française est régulièrement cible de critiques parce qu'elle elle incarne, en fait, elle symbolise ce lien au roi, au contrôle des arts par le roi, à la question des monopoles, etc., etc. Et dès avant 1791, il y a énormément de critiques sur le fait que la Comédie française ne voudrait pas lâcher sur ses droits. Et donc, il y a une association aussi qui se fait très vite entre le soupçon de royalisme et les acteurs et actrices de la Comédie française. Et donc, il y a un petit peu voilà, un prétexte qui est trouvé en septembre 93 de fermer le spectacle parce que une pièce est jugée anti-jacobine. Et donc, le théâtre ferme et on pense pendant plusieurs années qu'il ne rouvrira jamais. Et donc, voilà, il y a vraiment un soupçon aussi royaliste qui pèse, qui concerne effectivement une partie de la troupe, mais pas toute. Hein. Et ça provoque même une scission de la troupe en 91 où on a quand même 10 acteurs et actrices de la Comédie française qui partent jouer sur un autre théâtre de boulevard pour justement porter des idéaux patriotiques.
Oui, sachant que les autorités révolutionnaires vont aussi chercher au contraire à ressusciter par la suite l'équivalent de la Comédie française. Je crois que ça porte un autre nom avec une tonalité plus révolutionnaire, mais voilà, l'idée qu'il y ait un théâtre national, c'est aussi un outil révolutionnaire, pédagogique, patriotique, dont on ne peut pas complètement se passer.
Effectivement, complètement. En fait, dès 1794, il y a des tentatives qui sont faites pour essayer de reformer la troupe de comédiens français. Le problème, c'est qu'une partie ont été emprisonnés et les autres sont partis en province pour y jouer. Donc il y a effectivement pendant plusieurs années des tentatives qui sont faites pour reformer un théâtre français qui aboutiront uniquement en 1799. Et du coup, finalement, pendant plusieurs années, ces idéaux patriotiques, ils vont passer par les scènes de boulevard et par toutes celles qui sont apparues de plus en plus nombreuses après la loi de 91. On a à peu près au moins une vingtaine de spectacles qui sont en exercice à Paris, hein, entre 95 et 99. Donc on a, c'est plutôt dans cette pluralité de spectacles que ça va se jouer. Mais il y a une surveillance extrêmement forte qui est faite dans les mots employés par les acteurs et les actrices. S'ils disent « monsieur » au lieu de « citoyen », par exemple. Donc voilà, il y a...
On change les verres des pièces. Quand il y a « monsieur » dans un verre d'une pièce, on change les verres.
Complètement. C'est-à-dire qu'il faut effectivement changer ces verres. Et si on ne le fait pas, on peut être arrêté. Un spectacle peut même finir par fermer parce qu'il a fait trop d'erreurs. Certains acteurs vont, pour se justifier, dire « oui, mais on a tellement appris la pièce avec le mot « monsieur » qu'on n'arrive pas en fait à dire le mot citoyen à la place, mais c'était juste voilà une erreur. Donc voilà, c'est comme ça qu'il se justifie.
Alors sous la Révolution, les gens deviennent beaucoup plus libres de jouer ici ou là dans différents théâtres libéralisés. Sous l'Ancien Régime, où c'est quand même plus cloisonné avec des carrières orientées par ce statut de sociétaire, la Comédie Française, etc. Est-ce qu'on peut parler pour vous d'un marché du travail du théâtre à Paris sous l'Ancien Régime?
Alors oui, moi j'ai employé cette expression dans un sens assez large, c'est-à-dire un jeu en fait entre l'offre et la demande, déjà, c'était la première chose, et ensuite un processus de négociation des conditions de travail. Et ces deux conditions étaient là. Alors après, c'est vrai que sous l'Ancien Régime, on a plutôt un double marché, à la fois celui qui est lié aux deux comédies qui recrutent en province et celui des spectacles de boulevard, donc des spectacles parallèles, où là, on a un recrutement qui est plutôt local et basé sur des contrats.
On ne va pas trouver d'aller-retour, c'est-à-dire quelqu'un qui a échoué à la Comédie Française va se retrouver au boulevard ou quitte l'un pour l'autre, ça reste cloisonné majoritairement?
Ça reste extrêmement cloisonné. On a quelques tentatives de passer de l'un à l'autre, mais c'est extrêmement critiqué justement dans la sphère publique. Donc avant 1785-1786 et le déplacement au Palais Royal, où là il y a quelques petites hybridités qui commencent à se faire, non, c'est vraiment des mondes extrêmement cloisonnés. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, à partir de 91 puis de 93 quand la Comédie Française ferme, que certains de ces sociétaires en viennent à aller jouer justement dans des entreprises privées en quelque sorte. Mais effectivement, avant, ce sont des marchés d'emploi qui sont vraiment cloisonnés.
Alors comment on rentre sur ces marchés du travail segmentés? À quel âge on y rentre? À quel âge on devient comédien? Et puis avec quelle détermination? Vous avez dit, voilà, une famille de comédiens. Alors on sait que ça joue un rôle important, mais vous montrez aussi, parce que vous avez compté qui sont ces gens, que ce n'est pas du tout le seul cas de figure, qu'il y a des gens dont les parents étaient comédiens, il y en a plein pour qui ce n'était pas le cas. Donc comment on peut analyser cette entrée dans la carrière?
Alors c'est vraiment une entrée qui est plurielle. D'abord, je le rappelle, je consacre un chapitre à la question de la formation. Il n'y a pas de structure de formation unique ou de voie d'apprentissage unique. Il y a effectivement une école qui apparaît en 1786, mais c'est très tard, elle fonctionne 3 ans seulement, etc. etc. Donc on commence sa carrière très, très souvent tôt. Hein. On peut commencer par des rôles d'enfant dès 6-7 ans, mais pas forcément. Les vraies carrières commencent plutôt vers 13, 14, 15 ans. À la Comédie Française, on a un âge moyen au début qui est autour de 23, 24 ans. Alors c'est plutôt un peu plus jeune pour les femmes. Et au niveau donc des milieux, on a vraiment, c'est un milieu qui attire toutes sortes de professions finalement, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est quand même lucratif. À la Comédie Française, à la Comédie Italienne, on a des revenus extrêmement importants, hein, pour une personne qui est un sociétaire à la Comédie Française à part entière, il a un revenu de près de 20 000 livres par an à la fin de l'Ancien Régime. Donc ce sont des sommes vraiment énormes. Mais même les spectacles de boulevard paye beaucoup mieux que beaucoup de métiers artisanaux. Ce qui m'a amené à remarquer que, par exemple, ceux qui faisaient carrière sur ces types de spectacles, c'était souvent des personnes issues de l'artisanat local autour du boulevard du Temple. Et c'est vrai qu'on peut avoir cette image, quand on ne vient pas d'une famille d'acteurs, que peut-être il y a une réticence à ce que les enfants aillent vers le spectacle. Alors, il y a quelques cas, effectivement, que j'ai trouvé de réticence parentale, mais il y a aussi des vocations qui sont encouragées par les parents, parce que c'est aussi une issue économique qui permet à l'enfant, dès 10, 11, 12 ans, d'avoir un salaire qui est aussi important. Donc voilà, il y a vraiment tous ces cas de figure qui sont présents.
Sur ce succès de certaines carrières, peut-être qu'on peut dire un mot de ce que vous avez travaillé. Une des grandes sources classiques de l'histoire sociale sous l'Ancien Régime sont les inventaires après décès. Qu'est-ce qu'on trouve dans les inventaires des comédiens que vous avez regardés ?
Alors déjà, ce qu'on peut remarquer par rapport à la population générale, c'est la question du vêtement qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on va trouver un certain nombre de costumes de scène qui valent beaucoup d'argent, puisque globalement, à part les costumes un petit peu basiques, dès qu'on est dans une pièce historique ou dans une pièce qui nécessite un costume élaboré, c'est au comédien d'acheter son costume.
D'accord, c'est pas le théâtre qui lui fournit. D'où un point que vous soulevez à un moment, qui est la spécialisation des rôles. On sait que si on joue toujours un rôle de militaire romain, on aura la cuirasse quelque part dans un placard, et du coup, après le décès, le notaire notera qu'on trouve ça. Donc c'est quelque chose qui appartient au comédien.
Effectivement, et c'est pour ça que c'est bien dans l'inventaire du domicile qu'on trouve ces costumes-là, qui sont parfois mêlés même dans la même armoire, à des habits plus traditionnels. Ce sont des éléments vraiment de richesse. Il y a de nombreux soit cambriolages, soit vols dans les loges qui enlèvent aussi à certains acteurs une partie de cette richesse-là. Sinon, j'ai pu remarquer également, j'ai constaté que leur bibliothèque était relativement riche avec des ouvrages de théâtre, bien sûr, mais également en histoire naturelle également. On pouvait trouver certains comédiens curieux de ces thématiques-là. Et puis, parfois, dans les tiroirs, on a effectivement ce qu'on appelle les rôles copiés, c'est-à-dire qu'un acteur ou une actrice, quand la pièce n'est pas encore imprimée, ne possède pas en fait toute la pièce, mais possède uniquement son rôle copié sur des feuilles à part. Et donc ça, on retrouve ça effectivement dans les tiroirs à la suite du notaire.
Alors ces fortunes, ou en tout cas cette aisance matérielle pour une partie des comédiens, du coup c'est intéressant parce que ça vient en tension avec une autre facette de ce métier sous l'Ancien Régime, c'est que c'est un métier qui n'est pas toujours vu comme honorable, en particulier par l'Église. Sauf erreur, un comédien ne peut pas être inhumé en terre catholique, se marier, ça fait partie des éléments de stigmatisation. Donc ça veut dire que quelle est la réputation sociale de ce métier de comédien à Paris à la fin de l'Ancien Régime, entre déshonneur et succès, comment ça s'organise dans l'imaginaire ?
Je dirais que c'est justement cette tension-là, cette ambivalence-là, qui fait que c'est une image complexe et que ça concentre les critiques. C'est-à-dire que c'est parce que c'est un métier qui est extrêmement lucratif, si on réussit bien, effectivement, et qu'on en arrive à des grandes carrières, qu'on est d'autant plus critiqué, parce qu'effectivement, il y a ces stigmates. Alors, ces rapports entre église et spectacle, ils sont extrêmement complexes, ils sont à historiciser pour chaque siècle. Mais effectivement, théoriquement, jusqu'en 1849, donc bien après ma période, les comédiens sont soumis à l'excommunication mineure, donc théoriquement, il n'aurait pas le droit bénéficier des sacrements. Après, il y a des processus, effectivement, pour contourner ça. Ce n'est pas forcément toujours appliqué, mais il y a quand même, je montre un certain nombre de pratiques sociales, de contournement, de savoir pour justement ne pas aller dans telle ou telle paroisse, mais également d'actes de renonciation du métier chez le notaire avant de se marier. Donc, ce n'est pas forcément une généralité, mais ça existe quand même. Donc, ça prouve qu'il y a un stigmate qui a une véritable existence aussi dans les pratiques.
Et un stigmate qui peut être genré, puisque si on cite un passage qui évoque ces comédiens et en l'occurrence ces comédiennes, c'est un philosophe qui se demande comment un État dont l'unique objet de se montrer au public et qui pisait de se montrer pour de l'argent convient droit à d'honnêtes femmes.
Oui, alors effectivement, la question...
Qu'est-ce qu'il dit ça?
C'est Jean-Jacques Rousseau, il me semble, c'est bien ça. Effectivement, il y a vraiment une... Un double discrédit, en fait, moi, que j'ai pu identifier, parce qu'il y a un discrédit quand même de métier qui est lié à ces stigmates hérités, à la relation ambivalente à l'Église, mais également à la marchandisation, c'est-à-dire qu'on se montre au public pour de l'argent, on peut se faire siffler en scène, donc on a quand même une exposition forte. Et ce discrédit de métier, il s'additionne pour les femmes à un discrédit de genre, où on expose son corps et sa voix dans l'espace public, on a un métier qui est extrêmement corporel, où il y a une dimension de séduction aussi, donc il y a vraiment effectivement, donc ces actrices, elles vont être associées à cela. Avec toujours cette histoire aussi de la puissance professionnelle et financière qui entre en ligne de compte, puisque nombre de ces actrices sont mieux payées aussi que leurs collègues hommes, puisqu'elles ont plus de renommée. Et donc, c'est ce pouvoir qui va être attaqué aussi de manière prioritaire par certains.
Alors, il ne faut pas donner l'impression que c'est uniquement des discours sur le théâtre que vous avez étudié. Vous avez aussi étudié les paroles des comédiennes et des comédiens eux-mêmes. Comment vous avez trouvé des textes à la première personne? Comment vous avez, en gros, redonné la parole à une partie de ces personnages?
Effectivement, ça c'était vraiment quelque chose que je tenais à faire, puisque en réalité, moi je suis entrée dans mon sujet par ces paroles d'acteurs et d'actrices. Le premier fond que j'ai consulté, qui est extrêmement riche et dont je parle beaucoup dans le livre, ce sont les dossiers individuels de la Comédie française, c'est-à-dire que chaque acteur et actrice possède un dossier individuel, avec, à partir de 1772, les correspondances échangées sont conservées. Alors, il ne s'agit pas de longues lettres, il s'agit plutôt de petits papiers relativement brefs, expliquant pourquoi on ne peut pas venir à une réunion, pourquoi il faut déplacer telle ou telle pièce, etc., etc. Et si finalement, par cette accumulation de petits papiers et de petites lettres, qu'on peut en apprendre beaucoup sur le vécu de son métier, sur le rapport à son corps, sur les conflits dans la troupe, et sur toutes sortes de thèmes qui ne nous seraient pas accessibles ailleurs.
Il y a un texte notamment que vous citez, page 199, que j'ai trouvé absolument magnifique, c'est la lettre d'un comédien qui s'appelle Monvel, qui vient d'apprendre la mort d'un de ses collègues, Lequin, en février 1778, et qui écrit pour dire sa peine, et non seulement sa peine, mais aussi sa peine sur le fait qu'il n'en reste presque rien, parce que lorsqu'un acteur meurt, tout ce qu'il a joué était tellement éphémère que finalement, qu'est-ce qu'il en reste? C'est d'ailleurs une réflexion qu'on pourrait faire pour d'autres métiers de représentation, on peut penser aux professeurs aussi, qu'est-ce qui reste d'un enseignant qui n'a fait qu'enseigner, une fois que ses cours sont plus là, qu'il n'est plus là. On écoute ce texte lu par Mathieu d'Oliveira.
Voilà donc où aboutissent 30 ans de travail, 30 ans de peine, 30 ans de gloire. Le cercueil engloutit tout en un moment. Il ne restera d'un talent souvent sublime qu'une mémoire incertaine que le temps effacera. Le peintre, le sculpteur, le poète laissent après eux des monuments de leurs travaux, moins achevés dans leur genre que Lequin dans le sien. Ce qu'ils ont fait de bien reste entre les mains de la postérité, et Lequin ne laisse rien. Victime de l'envie, jouet des gens sans goût, en proie aux journalistes, voilà le sort d'un grand acteur pendant sa vie. Rien ne parle pour lui après la mort. Travaillez donc, comédiens, tuez-vous, usez votre existence, abrégez vos jours, et soyez bien vains de la gloire d'un moment. Pardon, mon ami, de ces réflexions un peu tristes que m'arrache un événement qui a dû vous pénétrer autant que moi.
En écoutant ce texte, on voit qu'il y a vraiment une pensée chez ces comédiens de leur art, de leur statut, du fait qu'ils font un métier et qu'ils y mettent énormément d'eux-mêmes.
Oui, effectivement, ça c'est extrêmement intéressant parce que on avait pu avoir accès à cette paroles à partir de mémoires d'acteurs qui, en fait, en réalité, ont été réécrits au 19e siècle, et même écrits au 19e siècle, même s'ils empruntent le nom d'un acteur du 18e siècle. Et donc, il fallait vraiment remonter, en fait, à ces lettres-là pour avoir certaines bribes de paroles et d'expressions d'émotion et de réflexivité, effectivement, par rapport à leur art. J'ai mis ce passage-là parce qu'il est représentatif d'une idée que je retrouve souvent, c'est la question de l'éphémère, effectivement, et du fait que la seule trace qui est laissée, c'est finalement des comptes rendus de prestations dans les journaux qui ne sont pas forcément très positifs. Et donc vraiment, il y a une réflexivité par rapport au public de la salle, mais aussi par rapport à la presse qui est présente et qui m'a beaucoup intéressée et qui est source à la fois de plaisir et d'angoisse. Il y a quand même un certain nombre de paroles relativement tristes ou angoissées par rapport à des réactions passées ou prévue du public.
Dans le texte qu'on vient d'écouter, et je remercie Mathieu évidemment pour sa lecture, il y a aussi l'expression d'une confraternité, d'une camaraderie, on pourrait dire, mais dans laquelle il ne faut pas non plus, il faut pas être non plus pris au piège de ça et de l'image qu'on peut avoir de la bohème qui soude une troupe de comédiens contre le monde extérieur qui les déconsidère et ne comprend pas leur art, et du coup il y a la solidarité étroite de la troupe. Ça, c'est une image romantique qu'il ne faut pas plaquer sur ces compagnies, sur ces troupes, parce qu'il y a aussi une gestion assez autoritaire, avec des amendes, avec des mécanismes punitifs au sein même de ces troupes.
Oui, tout à fait. C'est vraiment une société qui s'autorégule avec des règlements et des personnes qui rappellent ces règlements-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cet extrait, Bellecour parle de Lequin, et dans une autre lettre, il explique que justement, ils ont une carrière d'intérêt, c'est-à-dire qu'ils sont entrés effectivement en même temps. Et donc, il y a une dynamique de comparaison avec les personnes qui sont entrées à la Comédie-Française un peu avant, un peu après. Est-ce que leur carrière avance plus vite? Est-ce qu'ils gagnent plus parce qu'ils ont obtenu un quart de part supplémentaire ou pas? Et donc, il y a effectivement une gestion collective et une discipline des coulisses qui s'organise, parce qu'il s'agit quand même de proposer chaque jour un événement théâtral dans la ville. Et donc, il y a des contraintes de rythme et de corps aussi pour y parvenir. Donc, effectivement, ce n'est pas à idéaliser non plus, même s'il y a des amitiés très fortes qu'on voit sur des décennies également, bien sûr.
Cette contrainte de corps, c'est un passage très très intéressant de votre livre. Le corps, c'est l'outil de travail, le corps, la voix, avec une double réalité. C'est que d'un côté, ça se travaille pour arriver notamment à dominer les bruits du parterre, parce que c'est pas un public qui est pas tellement discipliné au XVIIIe siècle, l'est-il jamais, en tout cas fin XXe sans doute, mais XVIIIe c'est pas le cas, donc il faut arriver à dominer par la voix, et en même temps c'est risqué parce que si on force sa voix on peut tomber malade, et tomber malade c'est mettre en péril l'équilibre même des spectacles.
Oui, tout à fait, la question de la maladie elle est omniprésente, que ce soit au boulevard, à la Comédie Française, à la Comédie Italienne. Ce que j'ai pu remarquer dès le départ en m'intéressant vraiment aux écrits que ces acteurs composaient, c'était réellement une observation de son propre corps sans cesse pour savoir si on est en forme, si on est fatigué. Et ça a une incidence aussi sur le répertoire qui est proposé. Selon aussi son rang dans la troupe et son ancienneté, on va être plus à même de demander est-ce qu'on pourrait pas changer cette pièce, la mettre plutôt la semaine prochaine, parce que là je dois quand même intervenir pour 184 vers et ça me fatigue un petit peu plus que cette autre pièce où je n'ai que 57 vers à jouer, par exemple. Et donc du coup voilà, on a vraiment une attention au corps qui est extrêmement forte et également une prise en compte dans les contrats au boulevard de la question de l'accident du travail, c'est-à-dire est-ce que la maladie provient de fatigue qui viennent du spectacle ou proviennent d'un accident qui a eu lieu hors du spectacle. Et donc là, il y a cette distinction qui commence à être faite aussi dans les contrats.
Alors vous avez mentionné cette quantité de vers à mémoriser, c'est fascinant dans votre livre parce que les universitaires, on compte en signes, on sait qu'on doit rendre un papier qui fait 45 000 signes et que l'éditeur, si on lui donne 3 millions de signes, il risque quand même de froncer les sourcils et on va abréger un peu. Bon voilà, donc on compte en signes, les comédiens comptent en vers et en permanence ils sont en train de confronter leur rôle, et si on n'a que 12 vers, c'est pas beaucoup, et si on en a 1500, c'est trop à mémoriser. Donc c'est l'instrument d'évaluation professionnelle qui est développé.
Complètement, c'est vraiment leur comptabilité propre et leur langage pour le coup professionnel dont ils sont seuls à comprendre. Donc il y a vraiment cette variable de longueur. Peut y avoir aussi, on le trouve dans quelques lettres, la variable des déplacements. Est-ce que c'est un rôle dans lequel il faut bouger beaucoup sur scène ou dans lequel on reste plus fixe? Est-ce que c'est un premier rôle, donc du coup pour lequel on donne une énergie qui est aussi accrue, ou est-ce qu'on est plus sur le derrière de la scène? Donc on a effectivement toutes ces variables. Et la question de la voix aussi compte. Est-ce que c'est des passages chantés, des passages parlés? Donc voilà, c'est vraiment à plusieurs facettes. Mais c'est vrai que ça m'a intéressé, oui, cette question de la comptabilité par vers ou par ligne.
Avec des savoir-faire qui en même temps rentrent dans les canons artistiques de l'époque, puisque ce sont souvent des rôles très stéréotypés, ce qui veut dire qu'il y a une part de liberté dans le jeu, mais aussi une part de choses tout à fait normées, attendues. C'est-à-dire qu'on joue un vieillard grognon ou on joue un jeune premier et on peut jouer le même rôle dans 15 pièces différentes, mais finalement avec les mêmes attendus scéniques, les mêmes attendus du point de vue du jeu. Et du coup, il y a des gens qui sont même embauchés uniquement pour un certain type de rôle.
Oui, effectivement. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de la question du marché du travail. Une des choses qui structure ce marché, ou en tout cas cet échange entre offre d'emploi et demande, c'est toujours qu'on postule pour un emploi dramatique en particulier. Qu'un emploi dramatique, c'est effectivement un certain nombre de rôles types qui requièrent des caractéristiques au niveau de la voix, au niveau du physique, au niveau caractère. Et donc effectivement, on n'a pas la même chance d'entrer à la Comédie française si on joue par exemple les jeunes amoureuses en 1783 et que la Comédie française elle recherche à ce moment-là des personnes pour jouer ce type de rôle, ou alors pas du tout, ce type de rôle est déjà complet et on ne recherche pas ce type de profil. Et donc du coup, on va pas pouvoir être embauché à la Comédie française à ce moment-là. Donc c'est effectivement quand même extrêmement structuré hein, au point de vue aussi esthétique.
Alors avec une part de jeu qui consiste aussi à déguiser ses propres sentiments. Il y a un beau passage que vous citez d'un comédien dont l'épouse est malade et qui est dans un rôle comique. Et il y a un déchirement pour lui. En même temps, c'est son métier. Il doit être dans ce rôle comique. Mais là, on voit qu'il y a un écart entre ce qu'il montre sur scène et ce qu'il ressent.
Oui, complètement. C'est effectivement un passage assez émouvant d'une lettre hein, où il est obligé de passer plusieurs mois au chevet effectivement, donc de sa femme souffrante qui mourra quelques semaines après cette lettre. Et c'est un acteur voilà, qui est obligé là, de jouer un rôle comique et il emploie le terme de douleur hein, parce qu'il est amené à le faire. Donc ça, c'est un des passages assez rares vraiment sur le vécu entre son métier et sa propre trajectoire biographique aussi, un moment précis, et ses propres impératifs aussi et douleurs personnelles.
Pour qui on joue au XVIIIe siècle ? On joue pour le roi, on joue pour le public des loges, le public du parterre, on joue pour les critiques. Pour qui on joue quand on est acteur ou actrice ?
Ben, je dirais, là comme ça, qu'on joue pour de plus en plus de monde, en fait. Hein. C'est-à-dire que, alors on joue pas que pour le roi, ça c'est évident, même s'il y a des représentations à la cour pour le public curial qui a parfois la demande qu'on joue telle ou telle pièce. Donc là, on va jouer telle ou telle pièce parce que tel duc l'a demandé. Donc pour ces représentations-là, c'est vrai que ça compte. Et sinon... Alors, dans les correspondances de la Comédie française, on a quand même une attention qui est portée aux loges, et notamment aux petites loges, qui sont des espaces où on vient par abonnement. C'est-à-dire que les personnes ont payé à l'année, très cher, leur entrée à la loge, et le produit de cet abonnement, il est directement empoché par les acteurs et les actrices. Donc du coup, il y a quand même une attention à ce public payant de loge et à renouveler très fréquemment ses plaisirs et les pièces proposées pour qu'il continue à s'abonner. Mais il y a aussi effectivement la question de la presse hein, qui émerge, qui se développe, et les comédiens lisent la presse, font attention aux critiques dramatiques qui apparaissent à leur sujet, et effectivement il y a des journalistes parmi le public, soit des loges, soit du parterre, qui suivent l'actualité au jour le jour, commentent les pièces nouvelles, les prestations, etc. etc. Donc voilà, c'est apprendre aussi à faire attention à ce public pluriel, qui est l'une des compétences aussi que les comédiens développent.
Alors c'est très intéressant de voir ces critiques qui sont très détaillées, très précises. Hein. C'est vraiment, on pense aux critiques contemporaines de théâtre et on a l'impression que globalement, on va moins dans le détail aujourd'hui, peut-être parce qu'on a moins de place, mais en tout cas que là, le jeu de chaque comédien est décortiqué, analysé, mis au regard de ses prédécesseurs, ses successeurs, etc. Enfin, il y a quelque chose de très très dense, avec une idée qui revient souvent, c'est que les comédiens sont perfectibles et que voilà, Mademoiselle Untel a débuté, elle pourra faire des progrès. Et je me suis demandé en vous lisant si finalement on ne retrouvait pas dans ces critiques de théâtre un des traits des Lumières qui est que les hommes sont perfectibles, les institutions sont perfectibles, le jeu des comédiens est perfectible et que du coup il y a cette tension vers le mieux et que le théâtre est un des lieux aussi où ça s'éprouve.
Si, alors je pense qu'il y a tout à fait ce volet-là d'être perfectible et d'art qui n'arrive jamais à sa perfection en lui-même. Et il y a également en plus, vient s'ajouter à cela, la parole de légitimation de la presse, puisque ces journalistes dont je parle sont des critiques dramatiques qui souvent n'ont pas ou presque pas écrit de pièces de théâtre, qui n'ont pas tellement finalement de compétences propres, qui doivent prouver aussi leur légitimité à faire des critiques aussi détaillées comme comme vous l'avez rappelé. Et donc, du coup, l'idée, c'est de dire, bah voilà, j'observe aussi que tout n'est pas forcément bon, je donne des voies pour améliorer, et ensuite, quand je recommande le jeu de tel ou tel acteur un mois ou deux après, je dis, ah, il a semblé avoir pris en compte mes commentaires, il a fait des progrès, etc. etc. Et il y a, je pense, un troisième volet qui est aussi, on commence à spécifier ce qu'est l'ordre de la performance. On a parlé de la question de l'éphémère. Une performance, elle n'est jamais reproductible à l'identique. Donc, on peut jouer très bien un soir, moins bien un autre. Et donc, ça dépend vraiment du moment, de l'expérience. Et c'est pour ça que ça ne peut pas non plus être parfait et qu'il y a toujours aussi à s'améliorer.
Alors s'améliorer, mais c'est aussi savoir jouer ce jeu médiatique en train de s'élaborer, puisque c'est pas simplement des comédiens passifs face aux critiques, c'est aussi des gens qui développent des savoir-faire stratégiques pour influencer les médias, développer leur propre image, voire développer au sens concret l'image, ce qu'on est aussi à l'époque, et c'est Antoine Lilti notamment qui l'a montré, de la célébrité comme enjeu clé de la façon dont fonctionne l'espace public, et une image y compris sous forme iconographique. Les footballeurs aujourd'hui ont leur image Panini, les stars de la chanson ont leur poster. Les comédiens, les comédiennes, certains ont leurs vignettes qui sont diffusées.
Oui, effectivement, il y a un vrai essor iconographique. Il n'y a pas simplement des grands portraits de grands acteurs qui sont exposés au salon. Il y a également des petites gravures qui coûtent une livre ou deux livres et qui sont achetées, échangées, qui peuvent s'acheter soit individuellement, soit il y a également cette idée de collection de la troupe de la Comédie française, par exemple, où on voit ça autour du mariage de Figaro, qui est là effectivement une représentation iconique. Et donc là, on va acheter plusieurs vignettes en même temps pour des principaux acteurs et actrices qui se sont produits dans la pièce. Donc il y a là effectivement une dimension à la fois individuelle et collective hein, autour de ces iconographies.
Le mariage de Figaro, c'est une pièce qui a une dimension politique très forte, perçue comme telle à l'époque. Est-ce que les acteurs en ont conscience et est-ce qu'ils s'engagent dans le choix des pièces? Est-ce que le répertoire, finalement, ils le subissent ou est-ce qu'ils peuvent l'orienter, voire le choisir?
Alors, c'est beaucoup eux qui choisissent, hein, parce qu'en fait, il y a un comité de lecture à la Comédie française, un comité à la Comédie italienne. Hein, et donc là, ce sont bien le groupe de sociétaires qui voient en une lecture ou en deux lectures et qui ensuite acceptent ou non une pièce de théâtre. Hein. Donc effectivement, ils n'échangent pas énormément à ce propos dans leur correspondance, certainement parce que c'était durant les lectures que justement ils échangeaient leurs avis à ce propos.
Alors, pour ces acteurs et actrices, la réputation est fondamentale. Est-ce que ça reste un enjeu de réputation? Comment dire? Est-ce qu'on remet en jeu sa réputation à chaque représentation? C'est-à-dire des gens qui sont sociétaires d'un certain âge, avec les privilèges royaux qui vont avec et les revenus qui vont avec. Est-ce que monter sur scène, ça reste un enjeu? Et est-ce que ça peut encore basculer pour le prochain rôle, pour la suite de la carrière?
C'est une question qui est très intéressante, qui est très complexe. Alors, il y a forcément moins d'enjeux pour un sociétaire qui est déjà en place, hein, parce que les moments vraiment d'angoisse les plus patents que j'ai pu trouver, c'était justement pour les débutants qui postulaient à la Comédie française, à la Comédie italienne, sur une scène de boulevard, qui n'étaient pas sûrs d'être acceptés dans la troupe, et donc là, qui jouent finalement tout le devenir de leur carrière, vraiment sur quelques représentations, les critiques qui vont en découler, et la manière dont la troupe a reçu leurs prestations. Mais cela dit, à la Comédie française, hein, on trouve un certain nombre de problèmes qui peuvent avoir lieu suite à des sifflets qui ont été émis. Une personne qui était censée être admise comme sociétaire, qui était dans la troupe déjà depuis 3 ans, finit par quitter la Comédie française suite à une représentation qui s'est très mal passée, à des sifflets qu'il a reçus. Et il a éprouvé une telle honte qu'il dit qu'il ne peut plus revenir sur cette scène-là. Et il part finalement faire son métier à Toulouse, où il exercera ensuite de longues années. Donc voilà, il y a quand même vraiment cette dimension-là qui peut être présente. On ne joue pas forcément toute sa carrière, mais on joue effectivement une réputation. Et il y a toujours une attention de savoir est-ce que je vais pouvoir jouer ce qu'ils appellent un beau rôle, donc un rôle qui met en valeur individuellement, ou est-ce qu'on reste confiné à des seconds rôles qui ne permettent pas forcément d'exprimer une grande palette de jeux. Donc ça, ils y font attention vraiment tout au long de leur carrière.
Pour terminer peut-être, quelle mémoire institutionnelle il reste de ça, on va dire dans la comédie française du 19e, 20e, 21e siècle, ces gens que vous avez étudiés, est-ce qu'ils ont encore leur place? Je pense par exemple à un des noms que vous citez qui est Talma, qui est resté célèbre, et du coup il y a parfois des bustes de comédiens comme ça qui figurent encore dans les foyers ou dans certains lieux. Est-ce que les troupes successives gardent en mémoire ce côté éphémère évidemment des gens que vous avez étudiés, de ces comédiens de la fin du 18e?
Alors, il y a une vraie mémoire historique, institutionnelle à la Comédie française. Ça, c'est sûr, que ce soit dans la salle, mais que ce soit aussi par l'organisation d'archives, d'une bibliothèque-musée à laquelle on peut accéder, où il y a énormément de documents. Après, c'est vrai que finalement, la période que j'ai étudiée, la seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est finalement une période assez spécifique aussi, parce qu'il n'en ressort pas vraiment de grands noms, c'est-à-dire que le nom de Talma, qui est effectivement certainement le plus connu. Moi, il débute effectivement sa carrière à la période où je l'étudie, mais ensuite il sera beaucoup plus connu dans les années 1810-1820. Et donc, il n'y a pas forcément un grand nom qui émerge, et ça n'a pas aidé forcément à focaliser cette attention sur cette génération-là, effectivement. Mais il y a quand même une grande mémoire institutionnelle et historique.
Voilà, une génération qui n'est pas la plus prestigieuse culturellement, mais en même temps professionnellement, vous le montrez, hein, c'est elle aussi qui a construit d'une certaine manière le métier tel qu'il s'est défini par la suite.
Oui, oui, complètement. Et d'ailleurs, dès le XVIIIe siècle, et c'est le cas encore aujourd'hui, il y a la conscience de s'inscrire dans une lignée, que ce soit à l'époque que j'étudie à partir d'un emploi dramatique, donc c'est-à-dire on arrive après telle personne qui a interprété tel rôle, mais même encore aujourd'hui, on a cette expression, alors qu'on ne dit pas à l'époque, ou presque pas, mais qu'on dit beaucoup aujourd'hui, on dit « la maison de Molière ». Alors, abusivement, parce que Molière meurt 7 ans avant la fondation de la Comédie française, mais ça montre bien quand même cette pensée d'une longue lignée dans laquelle on s'inscrit, dans une tradition.
Merci beaucoup, Suzanne Rochon. Je rappelle le titre de votre livre, Vie théâtrale, le métier de comédien à Paris entre lumière et révolution. Est-ce que vous terminez, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager?
Oui, alors je me permettrais peut-être d'en donner deux. Alors le premier conseil, alors on a parlé un petit peu de la question des comédiennes. Un des livres qui m'a beaucoup marqué récemment, c'est l'ouvrage de Juliette Rennes qui s'appelle « Métier de rue, observer le travail et le genre à Paris en 1900 » et qui suit vraiment la question donc, des métiers de rue exercés par des femmes et notamment des cochères et voilà, des représentations que ça peut susciter. Et sinon, on a également parlé de la question de faire entendre la voix des acteurs et des actrices. Et donc, je voulais signaler l'apparition du livre de Laurence Marie qui s'appelle « Les paradoxes du comédien ». 50 regards sur le métier d'acteur. Donc j'ai pas encore lu cet ouvrage parce qu'il sort vraiment dans ces jours-ci. Mais c'est un ouvrage qui consiste en une interview d'une cinquantaine de professionnels de la scène, danseurs, metteurs en scène, comédiens, justement précisément sur leur rapport à la préparation de leur rôle, les émotions qu'ils ressentent face au public, les peurs que ça peut générer, etc., etc. Donc ça fait vraiment écho à ce qu'on a pu dire aussi à plusieurs fois aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledhist et à bientôt pour un prochain épisode.